respect de leur comportement et bien appliquer pour une monde qui change.
Ce qui va se passer en cas où ils sont pas
cognitifs, de moi une observatrice du genre humain.
On arrive maintenant à voir les cratères à la surface des astéroïdes.
On travaille sur des données qui sont à des millions de kilomètres. Et là, ils sont dans mon ordinateur.
Acteur de science.
Acteur de science.
Acteur de science.
Dans les coulisses de l'OSU.
Edgar Allan Poe disait « L'important, c'est savoir ce qu'il faut observer ». Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode à la recherche des acteurs de science. Je suis Marie-Charlotte et aujourd'hui, je vous présente Françoise Chalier, que j'ai rencontrée au CEREJ, laboratoire de géosciences, en plein travail d'observation dans son laboratoire. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Vous êtes chargée de recherche au CNRS en géosciences de l'environnement. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ?
Oui, mon travail consiste à faire de la reconstitution des caractéristiques de l'environnement pour des périodes passées, en particulier de reconstituer hydrologie et climat. On va parler de paléo-environnement ou de paléo-hydrologie ou de paléo-climat. C'est possible évidemment de faire ça à partir de différents indicateurs dans différents sites pour différentes périodes de temps. Moi, en l'occurrence, je travaille sur des sites en Afrique intertropicale et puis en mer Caspienne, un peu plus anecdotiquement. Et j'utilise des restes fossiles de très petites algues qui font une coquille en silice, comme du verre, et je les observe dans les sédiments, dans des lacs ou dans des milieux aquatiques divers. C'est à partir de ces restes fossiles-là que je fais de la reconstitution d'environnement pour des périodes passées.
Alors, être une observatrice dans un laboratoire de géosciences, qu'est-ce que ça signifie ?
Ah ben, il y a de très nombreux niveaux où l'observation est requise et nécessaire, bien sûr. Donc le principal, c'est, je vous le disais tout à l'heure, c'est l'observation de ces coquilles de silice dans des échantillons de sédiments. Du sédiment, c'est la vase qu'on trouve au fond des lacs et qui va s'accumuler au fil du temps et qui contient plein de restes divers et variés. Ça peut être des pollens, des petites coquilles et, entre autres, ces petites coquilles de silice. Alors, ce qu'on va observer, c'est ces restes qui se fossilisent assez facilement dans les sédiments. Mais c'est des objets qui sont vraiment très petits, c'est-à-dire quelques microns, quelques centaines de microns. Des diatomées, si on les met côte à côte, pour faire 1 mm, il en faut entre 20 et 200. Donc c'est vraiment très petit. Et du coup, ce qu'on va observer, ces coquilles, ces frustules, on appelle des frustules de ces diatomées-là, on va les observer avec une instrumentation, c'est-à-dire un microscope optique, qui va permettre un grossissement fois 1000. Et puis même, si l'observation est insuffisante à ce grossissement-là, on va utiliser un microscope électronique à balayage qui va permettre de regarder des structures beaucoup plus fines, jusqu'à 10 000, 20 000, 50 000 fois de grandissement. Ce qu'on observe, en fait, c'est la morphologie de la coquille, c'est-à-dire c'est des coquilles qui sont très, très finement structurées. Elles sont en silice hydraté, hein, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, c'est comme du verre. Mais c'est très, très, très finement structuré, avec des points, des stries, des côtes, des nodules, des structures très, très fines et très complexes, qui vont permettre, quand on les observe, toute cette morphologie, que ce soit la taille, que ce soit les mensurations, que ce soit les rapports de taille entre longueur, largeur, épaisseur, les fentes, etc., vont permettre de déterminer le genre, voire l'espèce, le plus souvent, de l'algue qui a vécu dans l'intérieur de cette coquille. Donc cette observation-là permet donc de regarder quels sont les genres et espèces de l'individu qu'on a sous les yeux, en tout cas sous le microscope. C'est très joli. Regardez, on peut voir sur l'écran, là, en l'occurrence, mais c'est très, très, très structuré. C'est un peu transparent, mais c'est très, très, très finement orné. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé de ces diatomées donc, qui étaient incluses dans le sédiment. Donc, en fait, ce qu'on fait de façon générale, c'est on va chercher moi je travaille dans des lacs, on va chercher une colonne de sédiments qu'on va prélever grâce à un carottier. Et donc, outre l'observation de ces diatomées qu'on va prélever dans les sédiments, on va décrire aussi ce sédiment de la carotte qu'on a prélevée. Alors bien sûr, cette observation du sédiment vient en amont de l'observation des diatomées, mais je vous la mentionne en deuxième temps parce qu'elle est beaucoup moins fréquente. On va ouvrir une carotte et prélever 100 ou 200 échantillons pour les diatomées. Donc on va observer 200 échantillons de diatomées, mais on va une fois, deux, trois jours durant, décrire la carotte et décrire le sédiment. Alors, l'observation de la carotte aussi, c'est du sédiment contenu dans une carotte, eh ben là, c'est pareil, on va regarder... Alors là, c'est macroscopique, hein, on n'a pas forcément besoin de microscope. On va regarder la couleur, on va regarder les composantes du sédiment. Est-ce que c'est un sédiment fin, de l'argile, ou est-ce que c'est un sédiment plus grossier, comme du sable? Est-ce que, par exemple, moi qui travaille en Afrique de l'Est, est-ce qu'il y a, par exemple, des cendres volcaniques? C'est souvent le cas. Voilà, donc ça, on va évidemment le repérer, le marquer, le noter. On peut, dans le sédiment aussi, observer, et donc prélever éventuellement, des éléments figurés, comme des petits bouts de racines, de feuilles, des graines, des petits bouts, des petites coquilles, qui sont macroscopiques, elles, par contre, ou de calcaire, et qu'on va pouvoir prélever pour faire des datations au C14.
Donc, d'accord. Est-ce que vous pouvez me détailler un projet actuel sur lequel vous travaillez en ce moment, ou qui vous tient particulièrement à cœur ?
Oui, alors c'est pas tout à fait un projet, c'est un aspect supplémentaire que je voudrais rajouter, que j'ai commencé mais que je voudrais développer, c'est la culture de diatomées en laboratoire. C'est-à-dire que jusque-là, je travaillais sur les diatomées, bien sûr, dans les sédiments, on l'a vu, hein, diatomées fossiles, mais aussi pour comprendre la signification des diatomées, eh bien, on fait des pêches dans les eaux actuelles des lacs, et on regarde quel est, par exemple, le lien entre les assemblages de diatomées et la salinité de l'eau. Et donc, sur la base de ce qu'on repère sur l'actuel, eh bien, on va interpréter les diatomées qui sont dans les carottes fossiles. Mais parfois, eh bien, on n'a pas tout à fait l'information suffisante dans les données actuelles, dans les lacs actuels, pour comprendre tout à fait le comportement d'une espèce par rapport à la salinité, prenons cet exemple-là. Donc ce qu'on peut faire, c'est un autre exercice, mais qui apporte de l'information aussi, on peut, si on arrive à pêcher dans les lacs cette diatomée-là, sur laquelle on manque un peu d'information dans la répartition géographique dans les lacs actuels, on va la mettre en culture au laboratoire. Alors, je le dis comme ça, c'est quand même tout un processus, et c'est loin d'être simple. Mais on va donc on la met en culture et après, on va faire de l'expérimentation. C'est-à-dire, on va la mettre dans des piluliers ou dans des milieux avec des salinités ou des compositions chimiques de l'eau différentes et on va voir comment elle se comporte. Est-ce qu'elle survit? Est-ce qu'elle vit très très bien? Est-ce qu'elle meurt? Et donc on va faire en fonction des gradients de salinité, on va faire un indice de bonheur à diatomée, on va dire ça. on va regarder au fil d'un gradient de diatomée, plus sérieusement, est-ce qu'elle se plaît ou est-ce qu'elle se plaît pas? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a, en particulier, est-ce qu'il y a un endroit du gradient de conductivité ou de salinité où l'espèce se développe particulièrement? Et on va dire ça, c'est, elle est à cette gamme de salinité, elle est à son optimum de développement. C'est là qu'elle se plaît le mieux. C'est son milieu idéal pour se développer. Voilà. Et ça va permettre, si on fait ça pour X espèces, ça va permettre d'abord de confronter à ce qu'on a sur les données actuelles, ça c'est une première chose, et après d'interpréter mieux et plus quantitativement ce qu'on a dans les sédiments. Voilà mon projet du moment, et c'est commencé, mais je voudrais le développer beaucoup plus que je ne le fais actuellement.
Mais je vous souhaite de pouvoir le développer.
Ah merci, oui.
Et alors, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, vous observez à la fois des diatomées, qui là, je le vois sur les images, sont magnifiques, et à la fois les carottes, donc les carottes de sédiments, qui ont des couleurs différentes, avec des niveaux différents. C'est des choses qui ne sont pas banales. Tout ça pour reconstituer finalement les environnements et les climats passés. Donc on pourrait dire que vous êtes une observatrice du passé.
Oui, je ne sais pas comment il faut le comprendre, mais une observatrice du passé, oui, bien sûr.
Et alors, comment vous en êtes arrivée là? Parce que vous parlez de tout ça avec beaucoup d'enthousiasme. Qu'est-ce qui vous a mené à observer ce passé?
Alors d'abord, si je parle avec un grand enthousiasme, c'est parce que c'est que j'ai l'impression d'avoir accès à des choses dont les gens ne connaissent même pas l'existence. Et ça, pour moi, c'est presque bouleversant. C'est-à-dire que quand je reçois des gamins, par exemple, à la fête de la science, je leur dis, quand vous voyez une flaque d'eau, si peu qu'elle reste pendant 3 semaines, eh bien, il va y avoir plein de diatomées, puisqu'on leur montre des diatomées au microscope, qui vont coloniser l'espace et ça va pulluler. Et il y en a plein. On ne les voit pas, c'est vrai, mais il y en a plein, plein, plein. Et pour moi, c'est presque bouleversant. Donc, c'est vrai que j'aime à parler de ça, j'aime à parler de ce que je fais, parce que pour partager cette chance que j'ai de voir ça. Et puis, parce qu'il me semble aussi que si les gens observaient la nature, même celle qui est invisible, s'ils avaient conscience de ça, ben, je ne sais pas, ça changerait le monde. Hein. Et comment est-ce que j'en suis arrivée à exercer ce métier? Alors ça... Donc j'ai grandi à la campagne, et même carrément dans une ferme. Quand j'étais... Avant d'aller à l'école, par exemple, donc j'accompagnais mes parents au champ, et eux, pendant qu'ils travaillaient, ben, mon frère et moi étions livrés à l'ennui. On avait bien quelques jouets, mais enfin, il y avait quand même mieux que les jouets à utiliser. C'était d'observer, en fait. C'était d'observer une fourmilière, des coccinelles... Je ne sais pas, la danse de trois libellules, ou même des précipitations calcaires sur des branches de bois dans un petit ruisseau. Enfin, c'était infini, finalement. Alors, évidemment, ce n'était pas tout à fait la même observation qu'aujourd'hui. Ce n'était même pas du tout la même observation, parce qu'il n'y avait pas d'objectif et c'était méditatif, on peut dire ça. À l'université, à partir de l'université, je trouve que les orientations qu'on prend sont beaucoup faites de rencontres au sens très, très, très large. Je cite souvent, ça a l'air un peu surfait, mais vraiment pour moi c'était décisif. Quand j'étais en master, je me souviens de cours de, pourtant peu d'heures, de Claude Lorius, qui venait nous partager avec une passion incroyable ses campagnes et ses résultats sur les carottes de glace en Antarctique. Et ça, moi, j'en ai encore un souvenir très très vivant. Et après, une fois qu'on est passé par les cours de Lorius, pourtant quelques heures, hein, je le répète, c'est quand même très difficile d'envisager de faire autre chose que comme le paléo-environnement ou le paléo-climat. Enfin.
Alors j'imagine qu'en observant dans votre travail de tous les jours, vous tombez parfois sur des choses que vous ne pouvez pas forcément expliquer, vous ne comprenez pas de premier abord. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un petit peu le propre des sciences de l'environnement. Et alors, est-ce qu'en ce moment, ou est-ce que récemment, vous êtes tombé justement sur une question, une observation sans réponse, comme ça ?
Mais d'abord, oui, bien sûr, parce que la recherche, c'est beaucoup de questions. Donc en permanence, on a un stock de questions qui appelle réponse, mais en cours, on va dire ça. Il y a deux choses que je peux mentionner, alors du très petit au très grand. D'abord, une question, moi, qui me préoccupe particulièrement, c'est que dans les espèces que j'ai en culture, normalement, sans rentrer dans le détail, normalement, au fil des divisions, une espèce part d'une grande cellule, et puis au fil des divisions, la taille diminue. Ça, c'est le cas général, on sait comment, on sait pourquoi. Dans les espèces que j'ai en culture, depuis 2012, donc quand même depuis 5 ans, il y a une espèce qui garde strictement toujours la même taille. Ça, c'est pas tout à fait attendu. Je ne sais pas pourquoi. Cette espèce-là, elle n'a jamais vraiment été mise en culture, donc c'est la première fois. Elle n'a jamais vraiment été étudiée non plus très très attentivement, donc je ne sais pas pourquoi elle garde la même taille. Elle a l'air d'aller bien, et donc voilà. Donc je ne sais pas, je la décris pour l'instant, et je ne sais pas pourquoi, ni... Voilà, donc je vais essayer de partager cette expérience un petit peu curieuse avec des collègues pour voir s'il y a d'autres gens qui ont le même questionnement, et voilà. Et il y a deux jours, je lisais une citation d'Asimov qui disait... Il disait en science, la phrase la plus intéressante, ça n'est pas « Eureka », mais c'est « Oh, c'est bizarre ». Voilà, ça m'a beaucoup plu parce que oui, c'est bizarre. Alors, c'est un peu intriguant, c'est un peu frustrant de ne pas savoir pour l'instant, mais je sens que ça va être intéressant.
Et alors, pour finir, si vous deviez résumer votre métier en un seul mot, qu'est-ce que vous choisiriez comme mot ?
Depuis le début que je fais de la recherche, en fait, j'ai utilisé différents indicateurs, bio-indicateurs. J'ai travaillé sur différentes échelles de temps et j'ai travaillé dans différents milieux aussi. Et le fil rouge et le point vraiment qui relie toutes ces expériences que j'ai eues, c'est paléoclimat. Paléoclimatologie, si on veut.
D'accord, c'est un long mot, mais on peut dire ça alors. Paléoclimatologie,
oui.
Pour une paléo-observatrice.
Ah, ben oui, ouais.
Super, alors merci beaucoup Françoise.
Merci Marie-Charlotte, mais infiniment.
Et c'est tout pour aujourd'hui. En espérant que vous avez apprécié cette découverte des coulisses du Cérège, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.